perkeleen tontot!
Vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load. Depuis hier, le Hellfest a ouvert ses portes pour 4 jours de festivités. Et si vous êtes déçu de ne pas faire partie des chanceux qui se sont procurés le fameux sésame pour Clisson, voici pour vous un sommaire exceptionnel, puisque après l'album de la semaine et la découverte de nous, deux nouveautés parues ce 16 juin, eh bien je recevrai en interview Dom et Thierry des Tambours du Bronx pour parler du nouvel album Evolution, qui était notre album de la semaine il y a 15 jours. Et puis enfin, pour refermer ce Check Me Load sur un air de reprise, on ira du côté de la rubrique Sortez Cover. Et aujourd'hui, on va écouter comment Lemmy et Motorhead ont revisité un classique des Four Horsemen. Mais pour l'heure, lançons les hostilités de ce Check Me Load avec l'album de la semaine, qui est en fait sorti vendredi dernier, hein, on triche un petit peu. Il s'agit de Six, la nouvelle prod studio événement du groupe américain Xtreme, qui n'avait rien sorti depuis 15 ans. Groupe phare de la scène rock des années 90, Xtreme, c'est une formation de funk metal originaire de Boston, au sein de laquelle officie le chanteur Gary Sharon et le guitariste virtuose Nuno Bettencourt. Après un premier album éponyme aux influences encore très glam en 89, Xtreme affirme son identité funk metal avec Xtreme 2 Pornographity. Ça, c'était en 90, c'est son album le plus emblématique, son plus gros succès commercial, notamment grâce à la ballade More Than Words, qui avait fait un carton à travers la planète et qui est sans conteste la chanson la plus connue du groupe. Alors suivront ensuite les albums Three Sides to Every Story en 92 et puis Waiting for the Punchline en 95, qui sont beaucoup moins réussis, qui vont amener le combo à se séparer en 96. Et puis contre toute attente, Xtreme eh bien, se reforme en 2004 et puis effectue plusieurs tournées avant de sortir en 2008 l'album Soda Death de Rock, qui est plutôt bien accueilli. Mais ensuite, malgré des rumeurs d'un éventuel successeur, ce sera silence radio pour Xtreme jusqu'à vendredi dernier et la sortie de cet inespéré Six, un sixième album de 12 nouvelles compos mêlant titres groovy teintés de funk et ballades planantes dans la grande tradition, le tout orchestré avec talent par toujours ce duo Gary Sharon, dont la prestation vocale est toujours aussi efficace, et puis Nuno Bettencourt qui retrouve tout son instinct de guitar hero, qui rend même un petit hommage à Eddie Van Halen. Avec Six, Xtreme signe un très joli retour et nous livre un album taillé pour faire plaisir aux fans mais aussi pour en conquérir de nouveau. On écoute un extrait de Six avec le titre Banshee, voici Xtreme. Bullet pale, gathering gas. Du groupe Xtreme sur Bac FM dans l'émission Check Melode. Xtreme qui fait un retour remarqué. Donc c'était vendredi dernier avec cet album Six que les fans ont attendu durant 15 ans, c'est une longue période, et c'était notre album de la semaine. Restez avec nous, hein, surtout puisque l'interview des Tambours du Bronx, elle arrive dans quelques minutes, le temps juste de découvrir deux nouveautés parues ce jour. Et justement, en ce 16 juin, c'est du côté de la Californie que tous les regards sont tournés avec la sortie du nouvel album des Queens of the Stone Age, l'emblématique formation stoner de Josh Homme, qui dégaine donc un 8e album intitulé In Time New Roman, comme la célèbre police d'écriture. 6 ans après Villains, qui avait remporté tous les suffrages, In Time New Roman s'impose directement comme un album plus brut, plus cru que son prédécesseur, et inaugure une nouvelle ère de fête apocalyptique avec des paroles toujours aussi spirituelles et caustiques. Autoproduit par le groupe et puis mixé par Mark Ranking, cette 8e production studio élargit la signature musicale de Queens of the Stone Age, et puis elle l'embellit aussi par de nouvelles tournures inédites, dont voici un extrait avec le titre Paper Machette. On écoute Queens of the Stone Age.
Down the bottom.
Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Back FM avec à l'instant Josh Homme et les Queens of the Stone Age avec le titre Paper Machette, extrait du nouvel album In Time New Roman qui est paru aujourd'hui. Et puis dans un registre plus power, plus heavy power maintenant, le groupe américain Fifth Angel sort également aujourd'hui When Angels Kills, un concept album dystopique qui n'est que la quatrième production studio du combo. Alors je dis qui n'est parce que il faut savoir que cette année, Fifth Angel fête ses 40 ans d'existence. Il faut dire qu'après deux albums remarqués à la fin des années 80, le groupe de Seattle avait pour le coup été victime collatérale de la scène grunge de Seattle, qui à l'époque avait sérieusement mis à mal la scène heavy metal. C'est donc après une longue pause de 27 ans que Fifth Angel était finalement réapparu en 2018 avec Third Secret, un album qui était aussi inattendu que réussi, dont voici enfin le brillant successeur When Angel Kills, avec lequel Fifth Angel nous assène une belle leçon de heavy metal pur jus. En voici la preuve en musique avec Resist the Tyrant.
The man has been revealed. Ex-chancellor Dion Profontis. And resistance has already started.
You know, my flock, that I have been patient. the time has come. Those that have refused my grace to walk amongst you, and must now be cut off. I need not tell you what you must do, because you know what you must do. Remember, your cause is just and righteous. So do this swiftly and with boldness. Fear not, my flock. I have great plans for you.
Great speech.
Yes. Divide and conquer. It's the oldest trick in the book. The wolves are circling and hungry. And the wolves will be next.
Toute l'actu métal sur Back FM, c'est dans Check Milode. À l'instant, c'était le groupe Fifth Angel avec le titre Resist the Tyrants et ses airs de grosse production hollywoodienne. C'est extrait du nouveau concept album du groupe qui paraît donc ce 16 juin. Alors, il y a 15 jours, Evolution, le nouvel album et deuxième album métal des Tambours du Bronx qui était sorti la veille, le 1er juin, était notre album de la semaine. Je m'étais pas trop étendu dessus parce que je vous avais annoncé qu'une interview du groupe se préparait et cette interview, eh bien, c'est aujourd'hui puisque dans quelques instants, je serai en compagnie de Dom et de Thierry pour parler de ce nouvel album et puis aussi pour parler des projets des Tambours du Bronx. Et juste avant de les retrouver, on va se mettre dans l'ambiance avec un premier extrait d'Evolution. On va écouter le titre Ghost tout de suite, les Tambours du Bronx.
Thank you.
écouter le titre Ghost des Tambours du Bronx sur Back FM dans l'émission Check Melode. Il s'agit d'un extrait du nouvel album Evolution, tout juste paru il y a quelques jours. Et pour nous le présenter, j'ai le plaisir de recevoir deux membres des Tambours du Bronx. Salut Dom, salut Thierry.
Salut.
Alors en février 2018, vous nous aviez présenté ici dans les studios de Back FM votre nouveau projet métal pour lequel les Tambours du Bronx s'étaient associés au batteur Frankie Costanza et puis à deux chanteurs incontournables de la scène métal française, Renaud de Lofofora et Stéphane Burier de Loadblast et Synsenum. Quelques jours plus tard, le projet prenait vie en live sur la scène du Silex à Auxerre, avant d'aboutir à l'automne suivant à l'album Womp. Et entre-temps, eh bien, vous aviez recruté un troisième chanteur en la personne de Renato Di Folco, qui officiait dans Flayed, dans Trépalium, et qui a depuis intégré Drop Dead Chaos, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps au Café Charbon. Alors, 5 ans plus tard, après un accueil quand même enthousiaste hein, de la part du public métal, et puis une tournée triomphale avec des concerts souvent sold out, voici l'acte 2 de ce projet métal avec l'album Evolution paru le 1er juin. Et donc, alors que Womp posait les bases, Evolution, c'est la confirmation de cette évolution qui est finalement tellement naturelle, instinctive. Quand est-ce que c'est devenu une évidence pour vous que Womp serait plus qu'une parenthèse et que ce projet métal devait continuer à exister, à évoluer?
Dès les premiers concerts, en fait.
Ouais.
L'alchimie sur scène, le plaisir à le jouer, puis l'accueil du public. Ça a été une évidence en fait, on a eu une seule envie, c'était de reproduire, on a été de plus en plus demandé et on a fait des salles de plus en plus grosses, de plus en plus pleines. Je dirais même que le premier concert qu'on a fait, alors hors Silex, parce que le Silex c'était l'accomplissement d'une résidence, tu sais, mais la première entre guillemets c'était à Paris et quand on est arrivé à Paris et que certaines personnes connaissaient les paroles.
Bah c'était ça,
c'était
même
sur Jour de colère, une partie du public connaissait les
même
paroles.
Même au motoculteur aussi, par exemple.
Tu
t'aperçois qu'il y a des gens qui chantent ton truc alors que l'album n'était pas sorti. Quoi.
Ouais, voilà, c'est extraordinaire.
Là, ça doit être impressionnant quand même.
Ça donne
les gens déjà.
Ça hérisse les poils.
Alors, on va en reparler un petit peu plus tard de ces deux titres, mais c'est avec Razorback et Ghost qu'on a écouté il y a quelques instants qu'on a pu avoir un avant-goût d'Evolution. Et puis le 1er juin, on a pu découvrir l'ensemble des 12 titres qu'il compose. Et moi, ce qui m'a sauté aux oreilles à la fin de la première écoute, c'est la cohésion entre l'ensemble des membres du groupe et les liens très forts qui semblent quand même s'être tissés au fil des concerts avec Stéphane, Renaud, Renato, puis Francky aussi, puisque Francky, je crois qu'il joue aussi sur la formule classique maintenant.
Il a intégré totalement les Tambours du Bronx, ouais. Il fait vraiment partie intégrante du groupe sur tous les projets.
Donc ma question c'est, est-ce qu'Evolution c'est le résultat d'un travail où chaque musicien a pu contribuer, s'investir à chaque étape?
Oui, absolument. Je pense qu'on a appris... Le terme est un peu fort, mais de nos erreurs de Womp, parce que Womp a été très spontané, donc le premier album metal, Weapons of Mass Percussion, était très très spontané. Donc là, on a appris, si tu veux, il était très dense. Il y a énormément de morceaux
sur l'album,
et il y a énormément d'informations simultanées sur chaque morceau. Je renie pas cet album, que j'aime beaucoup, mais sur cet album, on a pris le temps de le faire, on a été obligé de le prendre avec la période Covid, mais on a aussi pris le temps, on a choisi les morceaux, on en avait énormément, il faut savoir, on avait plus de 40 morceaux, donc on a pris le temps de les choisir, ensuite on a pris le temps de les enregistrer, on a pris le temps que chacun en fait apporte sa pierre à l'édifice, que chaque musicien ait sa propre partie, si tu veux, qu'il n'ait pas joué la partie d'un autre en fait, mais qu'il ait vraiment pu écrire ce qu'il souhaitait jouer, ce qu'il souhaitait apporter à ce morceau, et justement aussi le fait de dégager des passages pour chacun, c'est-à-dire que là on aura des passages plus aériens, on aura des passages avec plus de liberté pour le bidon, on aura aussi des passages où on se dit bon bah allez, le bidon est un peu en retrait, on l'assume, là c'est place un petit peu aux guitares, etc. On a fait, je pense, quelque chose de plus...
Moi, j'ai une impression vraiment de cohésion, de cohérence.
Voilà, parce qu'on on a fait différents types d'écriture par rapport au
Et puis,
premier.
Il y a aussi le fait que, effectivement, d'avoir choisi, en dehors de l'équipe Tambour, d'avoir choisi des chanteurs, Francky, Arco, Troma et tout ça, qui sont des personnes... Enfin, d'avoir fait le bon choix, en fait.
Ouais.
D'avoir fait le bon choix et de s'apercevoir que ces mecs-là maintenant font partie intégrante du truc. Donc déjà ça aide aussi, c'est pas...
Sur toute la partie instrumentale en fait, Arnaud qui est au clavier et Francky donc a intégré vraiment complètement les Tambours du Bronx depuis maintenant plusieurs années, ils font complètement partie du groupe. Et nos chanteurs aussi, mais sur le projet métal, parce qu'effectivement on n'a pas de chanteurs sur le show classique.
Mais vous faites toujours hein, le show
bien
classique.
Bien sûr,
il
qu'on
pas
fait
disparu.
En parallèle. Non mais c'est le... Si tu veux, les chanteurs ont intégré totalement le groupe, ils font partie du groupe. Simplement, effectivement, on ne les a pas sur le show classique.
D'accord. Et vous venez de me dire là que vous avez enregistré beaucoup de titres qu'il a fallu choisir. Comment ça se fait le choix quand on est beaucoup comme ça?
C'est compliqué.
C'est pas facile.
Faut voter.
Ouais, c'est un peu ça.
Ouais.
C'est un peu ça. Non, c'était pas tout à fait un vote si tu veux. C'était différentes écoutes et puis noter les ressentis de chacun. Alors sur certains morceaux, ça va assez vite parce que t'as certains morceaux qui peuvent être balayés d'un revers de la main par le plus grand nombre. Mmh. Bon, tu sais que c'est pas la peine d'insister. Après, tu sais que tu vas avoir un ou deux morceaux où tout le monde a le sourire tout de suite et tout le monde se dit ouais, celui-là vachement bien, donc ça paf, tu coches. Après, tu as forcément des morceaux un peu plus mitigés, donc là tu essayes de voir si ça intéresse un plus grand nombre. Donc sur les 40 démos qu'on avait, on a dû en enregistrer 20.
Ouais, à peu près.
On a fait un choix, on avait les 20 vraiment qu'une majorité aimait, on a choisi de les enregistrer, on en a sélectionné 12 pour l'album.
Et est-ce qu'un jour ça pourrait sortir sur un petit bonus ou...
Probablement, parce que tous les morceaux qu'on a enregistrés, si on les enregistrait,
c'est qu'on les aimait vraiment. Que ça passe à la poubelle.
Ouais.
Du coup, plus pour l'écriture des paroles, cette fois les trois chanteurs donc, ont pu pleinement participer. D'ailleurs, au fil des morceaux, des fois on reconnaît telle ou telle plume. Renaud, souvent il écrit en français, mais pas que.
Pas que. Mais en fait, il a que deux morceaux en français dessus, hein, je crois.
Ouais, alors on reconnaît l'écriture aussi de Renato, je trouve pas mal, de Stéphane aussi.
Ouais.
Alors le fait d'avoir plus de paroles en anglais cette fois-ci, est-ce que ça s'est fait plutôt naturellement ou est-ce que c'est aussi quand même un choix pour justement d'éventuelles tournées à l'étranger?
Alors ça a failli être un choix. Et finalement, c'était une évidence. C'est-à-dire qu'on s'est posé vraiment la question. C'est vrai que les tambours, c'est international à la base. Et c'était facilement international parce qu'il n'y avait pas de texte. Et la percussion, c'est international.
Bah oui, voilà. Jusqu'à présent, la question ne s'était pas posée finalement.
Ben non.
Jusqu'à Womp.
Voilà. Et Womp était très français. Et là, c'est vrai qu'on a cette envie de retourner à l'étranger. Donc c'est vrai que la question s'est posée parce qu'on aime les paroles françaises de Renaud. Steph et Renato sont plus à l'aise pour écrire en anglais. Nous, en fait, au final, on s'est dit on va laisser la pleine liberté à nos chanteurs. Ils sont là, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont carte blanche.
Ouais, donc, du coup, et puis quelque part, on fait ce qu'on veut.
Oui, c'est ça.
Donc finalement, Steph et Renato ont écrit en anglais. Renaud a écrit, mais il a écrit que deux textes en français, tu vois, de lui-même. Il y a certains morceaux qui l'ont inspiré directement en anglais. Donc on n'a pas eu à se poser finalement cette question. Je trouve ça très bien. On a deux morceaux qui assument le côté français. Le reste est international.
Et quand vous êtes sur la partie compo, comment ça se passe? C'est déjà la partie musique qui arrive et les textes viennent se coller dessus? Ou c'est déjà les textes qui sont écrits et la musique vient après?
Non, la musique vient en premier.
Ouais.
Sauf sur un morceau qu'on n'a pas enregistré. Je sais que Renaud a écrit un texte sur les tambours qu'on n'a pas encore mis en musique. Ça viendra peut-être un jour. Mais non, jusqu'à présent, c'est toujours la musique en premier.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu aussi des featurings, parce qu'il y en a deux sur l'album, dont un avec Andreas Kisser de Sepultura. Alors, c'est le titre Chaos. On sait que c'est la collaboration entre Sepultura et les Tambours du Bronx qui ont été en quelque sorte le déclic de ce projet métal. Est-ce qu'avec ce feat avec Andreas Kisser, la boucle est bouclée ou est-ce que ça pourrait être une étincelle vers une nouvelle collab avec Sepultura, maintenant que la famille Cavalera est plus impliquée dans les affaires du groupe?
C'est pas vraiment. Après, c'est pas non, la boucle n'est pas forcément bouclée. Enfin, je veux dire, c'est les musiciens de Sepultura, on les a rencontrés, on a toujours des contacts avec eux, donc ça se passe bien. Une nouvelle collaboration, pourquoi pas, j'en sais rien, mais voilà, c'est juste.
Il n'y a rien en cours, mais c'est vrai que si on se croise sur un festival,
oui, en général,
probablement qu'on aura cette envie de faire un petit quelque chose
si
ensemble.
Si c'est pas nous qui avons l'envie, les organisateurs ont...
Oui, je pense. Hein.
Ceci dit, les Cavalera n'ont jamais rien eu à faire, je veux dire, entre Sepultura et nous.
Oui.
Cavalera, ça reste une épine dans le pied de Sepultura uniquement.
Ouais.
Nous, on n'a aucun problème avec Max.
Et bien justement, on va l'écouter ce titre Chaos en featuring avec Andreas qui sort. C'est tout de suite, c'est sur Back FM.
I'm free as I can, fighting the war.
Vous écoutez l'émission Chic Milote sur Bac FM et aujourd'hui je reçois Dom et Thierry des Tambours du Bronx pour parler d'Evilution, leur nouvel album qui est paru le 1er juin. Alors à l'instant c'était le titre Chaos en featuring avec Andreas qui sort de Sepultura. Et puis il y en a un deuxième featuring sur cet album, c'est le titre Razorback qui a été le premier extrait que vous aviez révélé. Et c'est avec le groupe de rap hardcore néerlandais Dub D.O.D. que vous l'avez enregistré. Alors moi, Razorback, ça m'a tout de suite fait penser à un film d'horreur des années 80 avec ce sanglier sanguinaire. Mais après écoute, ça m'a surtout fait penser à deux soundtracks mythiques des années 90, la soundtrack de Judgment Night et puis celle de Spawn aussi, parce que là on assistait à cette époque à la meilleure des confrontations entre la scène rock et la scène rap, et j'ai vraiment trouvé cet esprit dans Razorback qui sonne un peu comme l'hymne des tambours, j'ai trouvé, avec cette notion de meute. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce titre, de cette collab avec Dub D.O.D.?
Je crois que tu as tout dit.
Tu as
tout saisi. C'est exactement ça. C'est un hommage à la compile Judgment Night. Bon, on est quelques-uns à être très 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 fans. Moi, tu sais que je suis très fan de Crossover.
Mais cette compile, on l'avait déjà évoquée lorsque tu étais venu nous parler de Banjo Metal Nation.
Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on a écrit ce morceau, on l'a écrit déjà dans un esprit. On avait cette compile en tête. On avait déjà cet esprit hardcore et hip-hop. Et on avait très envie d'avoir un featuring hip-hop. Ouais, voilà, dès l'écriture. Parce que je trouve que déjà la musique des tambours s'y prête.
Ah mais totalement.
De toute façon, les tambours, pour moi, c'est de même qu'il n'y a pas de langage à la base dans les tambours. Il n'y a pas non plus de style. Même quand on n'avait pas de guitare, on pouvait jouer sur des festivals de métal ou des festivals de jazz. Et le fait qu'on sorte actuellement des albums de métal ne fait pas de nous un groupe exclusivement métal. On aime pour autant beaucoup d'autres styles. On ne souhaite pas se limiter exclusivement. Et je trouve que le crossover, c'est montrer quand même une ouverture d'esprit, présenter des choses à d'autres personnes qui peut-être leur faire découvrir. Peut-être que certains fans de métal n'auraient pas écouté Dub D.O.D. Peut-être que des fans de Dub D.O.D.
Moi, je ne les connaissais pas du tout. Et ça m'a donné envie.
Je ne connaissais pas.
Et j'espère que tu allais voir.
Du coup, ça m'a donné envie d'aller taper leur nom sur Spotify et de découvrir leur univers. Et c'est vachement bien.
Ouais, c'est très, très, très bien. We raise them back, you can't play with my pack. I'm looking forward to the future, yeah, stay in the past.
En ce qui concerne le mix, le mastering d'Evilution, de nouveau, c'est HK avec qui vous aviez bossé sur Womp qui s'est occupé de tout ça dans son incontournable Vamakara Studio. HK, c'est quelqu'un qui a la réputation de s'impliquer énormément dans les projets sur lesquels il travaille. Qu'est-ce qu'il a apporté à Evilution, alors, en règle générale, mais aussi par rapport à Womp?
Déjà, on a refait appel à HK parce que j'étais bluffé par le travail qu'il a fait sur le premier Womp, sachant que... Alors je vais parler technique, c'est très 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 dur déjà de faire sonner les bidons. Je parle en enregistrement principalement.
Et en plus, il fallait caler les autres instruments.
C'est ça. Alors caler les bidons avec guitare, batterie, chant, etc. C'est
un défi.
Cauchemar. Et sur le premier qui s'est fait justement tellement rapidement, tellement spontanément, il a fait un excellent boulot. Donc on s'est dit, on a un type qui a compris comment ça marche. On va continuer avec. Hein. Je pense qu'on peut lui faire confiance, sachant que là, on prend le temps de le faire, vraiment. Je pense qu'il a compris ce qu'il a apporté. Il a apporté son interprétation des morceaux, en fait. C'est un peu lui qui a choisi par moment de faire de la place, de tailler peut-être dans les guitares pour faire ressortir le clavier à tel moment. Tu vois. Il a eu une sorte de direction artistique. C'est-à-dire que moi, je lui ai expliqué un peu notre volonté au début. Et je pense qu'il a parfaitement compris, qu'il l'a suivi, mais avec son instinct et ses
oreilles.
D'accord, ouais. Donc ça a été parfois des surprises, c'est-à-dire que peut-être qu'à des moments je voulais une avalanche de guitare et qu'à ce moment-là lui il a plutôt mis du clavier. Donc ça a pu être une surprise à ce moment-là, mais en tout cas c'est une bonne surprise parce que le résultat est là, il est bon.
Bon, en tout cas en ce moment, HK on le retrouve sur les meilleurs albums qui sortent en matière de scène métal. Alors pas que française, hein, parce qu'il bosse aussi avec... Enfin, je pense à Sinsenum, mais si, il y a quand même une patte française puisqu'il y a Stéphane. Mais... Enfin, moi, je sais que c'est un des producteurs actuellement en France que je trouve dans les meilleurs. Quoi.
Ah oui, il fait un excellent travail. Et puis, c'est quelqu'un le dialogue est facile. Et donc c'est très facile de travailler avec et ils bossent super bien.
Alors au-delà de la musique, Evolution c'est également un artwork qui est extrêmement accrocheur. Il y a le retour au premier plan du rhino, c'est un peu votre animal totem.
Ouais.
C'est un artwork qui est signé par un illustrateur irlandais qui s'appelle Gary Ronaldson et qui n'est pas un inconnu chez les amateurs de métal puisqu'il a notamment illustré pour Misery Index. Comment s'est fait ce choix de bosser avec Gary Ronaldson ?
Comment on est arrivé à Gary ? On avait envie... Alors à la base on n'était pas sur le rhino. On avait l'image de la hyène retrouve dans l'album en fait.
D'accord, qu'on peut c'est retrouver quand on ouvre sur certaines. Ouais. L'album, on voit apparaître la hyène.
C'est ça. Et c'était pas Gary au tout début. On garde cette pochette qu'on avait avec la hyène, qui n'est pas faite par Gary pour plus tard. Elle était géniale cette pochette et on aimait beaucoup la signification des hyènes, l'histoire de la meute et tout ce que ça implique. Mais à un moment, on s'est dit qu'il fallait assumer pleinement le côté métal. Et avoir une pochette qui soit pas finalement trop sage. Et pourquoi pas aller chercher quelqu'un qui est spécialisé vraiment dans le milieu. Donc Steph avait le contact de Gary, il m'a dit appelle-le directement, tu vas voir, il est super cool, tu verras si ça le branche. Et Gary connaissait pas les tambours, forcément, il a cherché un tout petit peu, il a vu donc l'histoire des hyènes, et puis il a regardé en creusant, il a vu que c'était notre animal totem, comme tu disais, le rhinocéros, et lui il m'a dit tout de suite, mais moi j'ai toujours rêvé de faire un rhinocéros. Donc,
tombe bien.
Impeccable.
Voilà, il a accroché tout de suite au projet, il nous a proposé une esquisse, enfin c'était nettement plus qu'une esquisse, hein, en quelques heures. Et c'était parti.
Et là, en plus, sur la pochette, on a des couleurs qui pulsent, tout ça, donc ça le changeait un peu, parce que je regardais les pochettes du coup de Misery Index, par exemple, c'est plus sombre.
Bah, c'est très métal. Là, il a compris qu'on était un groupe de métal, mais pas que. Et il était ravi de changer un peu de domaine.
Ouais, ça l'a changé un peu de sa zone de confort.
C'est
quoi.
Ça, ouais, amener sa touche métal sur quelque chose... En faisant quelque chose qui n'est pas 100% métal.
Et puis, autre évolution notable pour Evolution, vous avez changé de label et vous avez rejoint alors Blood Blast Distribution, je ne sais pas comment on le prononce.
Ça dépend si tu le prononces à la française ou à l'anglaise, tout est juste.
Ça s'écrit pareil.
Ouais, hein. Comme dirait Thierry, on fait ce qu'on veut.
Ouais, voilà, exactement.
Et alors, si j'ai bien compris, c'est une entité qui est née entre Nuclear Blast et Believe.
Ouais,
c'est ça.
De toute façon, Believe et Nuclear Blast. Alors, Nuclear Blast est un label métal.
Ouais,
un
label métal allemand.
Ouais, mais c'est plus tout à fait allemand puisque ça a été racheté par des Français de Believe. Et Blood Blast, c'est la filière distribution spécialisée métal de Nuclear Blast et Believe.
D'accord. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir rejoint, on va dire, cette écurie marquée par le sceau Nuclear Blast. Parce qu'en général, Nuclear Blast, c'est quand même des formations qui cartonnent.
C'est du lourd, voilà, c'est ça. On voulait avoir d'une part un peu plus de liberté, c'est-à-dire en étant plus ou moins nous-mêmes label, puisque ouais. Blood Blast est distributeur, et également rejoindre une équipe spécialisée métal qui va nous aider à avoir une certaine crédibilité dans le milieu, parce que c'est pas forcément évident, et aussi à remettre un pied sur l'international, parce que comme tu l'as dit, Nuclear Blast, avant d'être acheté par les Français, c'est quand même une très très grosse boîte allemande avec pratiquement la moitié des groupes métal de la planète.
Alors, Evolution, on l'a déjà dit, hein, il est dispo depuis le 1er juin, et j'imagine que maintenant, il vous tarde d'aller le défendre sur scène.
Absolument.
Alors, c'est quoi les prochaines dates ? Je crois que ça arrive très vite, là.
Ouais, alors je ne sais pas en tête.
Il y en a quelques-unes. Il y en a une vendredi qui vient, la Romans-sur-Isère.
Ouais, les sons festival Les Sons du Jacquemart,
c'est donc ça. Donc aujourd'hui.
Bien sûr, aujourd'hui.
Tout à l'heure, vous serez sur scène.
D'accord. Et après, on a deux autres...
Alors, je te dis ça tout de suite. Espace Crouzy à Boisseuil, voilà. C'est vers Limoges et c'est le 7 juillet.
D'accord, voilà. On prend note, allez.
On joue également le 22 juillet. Alors attention, on n'a que trois dates métal cet été. On joue très peu cette année.
D'accord.
Tout va se passer à partir de l'hiver.
2024.
Et plutôt 2024. Et donc, 22 juillet, festival La Guerre du Son. À Londres, me demande pas où c'est, mais
d'accord.
Par contre c'est un super festival.
Je chercherai sur Google.
Vers Langres, tout ça, je crois. Je crois que c'est dans, dans l'Est un peu.
Donc 16 juin, 7 juillet, 22 juillet. Voilà.
Donc ça, c'est pour vous voir cet été. Puis après, il y a une tournée alors, qui a déjà été annoncée pour 2024 avec Clone et Nano War of Steel.
Oui.
J'ai trouvé l'affiche originale.
Ben ouais. C'est bien, je trouve, de faire des affiches éclectiques. Ouais.
C'est chouette parce que Clone, alors on est plus sur un métal progressif. Nano War of Steel, on est plus sur du synfo.
Ouais,
un peu humoristique
ouais,
et les tambours de bombe, ça va faire une belle affiche. Ouais. Et puis, alors là, on est actuellement en plein dans le Hellfest. Est-ce que 2024, ça pourrait être enfin l'année où les tambours vont fouler la scène de Clisson? Parce que ça, on attend ça quand même depuis longtemps.
Écoute, Ben Barbou, si tu nous écoutes...
On va lui envoyer le podcast.
Ça serait bien, non? Moi, j'adorerais... ce serait un peu...
Mais je pense que vous auriez mais carrément trop votre place
sur
l'affiche.
Je pense qu'on aurait notre place, on adorerait jouer. Je pense qu'un jour, on finira par jouer. Peut-être qu'il faut le temps qu'on fasse nos preuves et puis qu'on soit considéré...
C'est trop grand, il y a trop de monde.
Ouais, c'est ça.
Qu'on soit considéré comme un groupe de métal crédible par certaines pointures.
C'est en bonne voie, là.
J'espère.
Il y a quelques médias qui sont quand même intéressés à vous. Je pense à Rockhard Magazine, là, il y a votre interview dans le numéro de ce mois-ci.
Ouais, il y a MyRock aussi, il y a Artforce aussi qui nous a
également
beaucoup suivi.
Je pense que la consécration au niveau du public métal, elle est vraiment en train de se faire, là.
Bah oui, mais de toute façon, on l'a forgé déjà pendant nos tournées.
Sachant qu'au niveau du public, c'est déjà fait, je pense.
C'est déjà fait. Alors, on continue d'avoir un public tout public. Attention, c'est pas du tout péjoratif,
oui,
mais on a toujours notre public tout public, avec beaucoup plus de métalleux qu'avant.
Mais je me souviens, j'étais allé vous voir à Varennes-Vauzelles.
Ah oui, à la Plaine.
À la Plaine, voilà. C'était un public très familial. Il y avait vraiment tous les cas de figure. Il y avait des métalleux, des familles, etc. Et il y en a qui avaient un peu grincé des dents en disant ah, c'est un peu brutal, quoi.
Mais de toute façon, moi je pense que c'est dans la tête tout ça. Chez certaines personnes, il y a toujours cette phobie de la guitare. C'est-à-dire que tu vas faire exactement le même spectacle en cachant les guitaristes, ça passera très bien. Ou tu remplaces les guitares par un clavier, une cornemuse, n'importe quoi. Tu peux avoir la même violence, ça passera mieux. C'est le fait de montrer un espèce de dégorgeur de poulet, de brûleur d'église avec son affreuse guitare pointue. C'est ça qui choque certaines personnes. Parce que les tambours, ça a toujours été extrêmement violent, finalement.
Oui. Ouais, c'est quand même de la grosse percussion, quoi.
Voilà.
C'est pas du.
Non, puis en plus, là, Varennes-Vauzelles, on est quand même bon chez nous, quoi.
C'est à la maison.
Donc, effectivement, les gens s'attendaient aussi, peut-être, toujours en sachant qu'on en précisant bien que c'était le spectacle métal, ils s'attendent toujours à voir le spectacle des tambours, à redemander gloire au Rhino.
Mais c'est toujours un spectacle des tambours, c'est ça qui est dingue. Parce que t'as toujours l'arc de cercle, les gens qui tapent sur le bidon avec la même énergie, simplement, au lieu d'avoir. Tout ce qui est mélodique joué par une personne derrière, comme sur le show classique, et plutôt en mode électronique, c'est joué par des musiciens. C'est la principale différence. Alors effectivement, c'est la musique qui est un peu plus dure, mais de toute façon, les tambours, c'est dur.
Et visuellement, c'est plus dur aussi, parce qu'en plus des guitaristes, il y a des chanteurs.
Et oui.
Et en plus, ils ont plusieurs.
Oui, mais quand tu regardes les enfants, par exemple, enfants, on a énormément d'enfants qui viennent de nos concerts, les enfants n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas d'a priori, ils sont à fond, les gamins. Ils s'en foutent que ce soit un clavier ou une guitare. Eux, ils ressentent la musique, ils dansent, ils sautent, ils ont le sourire, tu vois, ils ne voient pas des affreux satanistes.
Et puisqu'on parle de live, récemment vous avez partagé l'affiche avec Chargotte. Chargotte, j'ai vu Étienne en interview il y a quelques temps, et il m'avait confié que lui, il rêverait de collaborer avec les Tambours du Bronx. Alors, est-ce que vous avez fait affaire?
Est-ce qu'on a fait affaire? On a fait affaire.
On a bu des canons ensemble.
Ouais, c'est déjà pas mal.
On a copiné parce qu'ils sont, adorables. Ouais,
ils sont super gentils.
Ce qu'ils font, c'est vachement bien.
Ouais, c'est chouette, Chargotte.
Je trouvais que ça avait plein de sens, finalement, de tourner ensemble. C'était très complémentaire. Musicalement, c'est très différent. Enfin, c'est très différent. Je sais pas si c'est très différent. Enfin,
si,
c'est différent.
Si, c'est différent.
Ils ont un autre... on a le chemin inverse parce qu'eux sont énormément dans le spectacle. Alors que nous, finalement, on en sort un peu du spectacle, on pourrait dire. Tu vois, par rapport au show classique, sur le show metal ou le show metal, on laisse parler le côté rock'n'roll.
Plus sur le format concert, quoi.
Ouais, on est sur le format concert où on se laisse aller totalement au format rock'n'roll sans se prendre la tête avec une scénographie spécialement. C'était aussi un peu ça l'intérêt du c'est un peu la récréation, le show metal. Et finalement, les deux groupes étaient hyper complémentaires, mais même en termes de public.
D'accord. Donc, rien n'est fermé, mais...
Rien n'est fermé, on fera sûrement des choses ensemble un jour, si on a le temps et les moyens.
En tout cas, je pense que ça ferait une bonne collab, quoi. Ouais. Ça irait très très bien ensemble. En tout cas, merci Dom, merci Thierry d'être venu sur Bac FM dans l'émission Check Me Load pour nous présenter Evolution, donc votre nouvel album métal des tambours du Bronx. C'est dispo depuis le 1er juin, alors c'est dispo en CD, c'est dispo en vinyle, on peut l'écouter sur les plateformes.
Tu peux amener une petite précision
Avec plaisir.
Alors, il est exclusivement en digital, cet album.
D'accord.
Donc, il est sur toutes les plateformes via Blood Blast. Mais il existe en CD et en vinyle. Et ça, c'est exclusif à notre merchandising. Donc, c'est-à-dire qu'on le trouvera en concert ou sur notre shop en ligne.
D'accord. Donc, si c'est même pas la peine d'aller sur le site qui porte un nom de fleuve d'Amérique du Sud.
Si vous le voulez en physique, c'est sur notre shop. C'est shop.tambourdubronx.com. Et pour les Nevers-sois qui n'ont pas envie de payer de frais de port, ce que je peux comprendre, puisqu'on habite quand même à côté, ils peuvent aller le chercher à la FNAC de Nevers.
Et puis c'est quand même mieux de miser, alors même si certains trouvent ça démodé, c'est mieux de miser soit sur le CD, soit sur le vinyle, parce que pour les artistes, c'est quand même plus sympathique, quoi.
Pour les artistes et pour le mec aussi qui va avoir un objet entre les mains.
Et puis surtout, c'est un peu du foutage de gueule, les streamings, ce que touchent les artistes ensuite.
Tout à fait.
Ça, faut pas se le cacher. Donc, allez, procurez-vous le CD, procurez-vous le vinyle. Et pour ceux qui hésitent encore une once d'instant, on va écouter un troisième extrait de l'album. C'est ce qui va conclure cette interview. Et cette fois-ci, on va écouter un des morceaux en français, puisque jusqu'à présent, j'ai passé que des morceaux en anglais. Il s'agit du titre d'ouverture de l'album. Ça s'appelle « Le début de la fin ». Merci Dom, merci Thierry, et bon courage pour le concert de ce soir.
Merci.
Yeah.
Le début de la fin, c'est le titre qui ouvre Evolution, le nouvel album des Tambours du Bronx. C'est Renaud qu'on retrouvait au chant en français sur ce titre. Renaud que vous pourrez voir en concert le samedi 24 juin, donc samedi dans une semaine au Café Charbon, avec son autre formation Mudvayzer, puisque vous le savez, Renaud, en plus d'être le chanteur de Lofo, en plus d'officier dans les Tambours du Bronx, il officie également dans Mudvayzer, mais de toute façon... Pareil, il y aura une interview du groupe là qui est en préparation, qu'on vous diffusera la semaine prochaine. Donc, restez attentifs aux réseaux sociaux sur Bike FM. Normalement, ça devrait être dans le prochain Check Me Load. Sinon, si vous venez de nous rejoindre, pas de chance, hein, vous venez de manquer l'interview de Dom et Thierry qui étaient mes invités pour présenter ce nouveau disque des Tambours du Bronx, disponible depuis le 1er juin. Donc, vous avez entendu hein, dans l'interview, vous pouvez vous le procurer sur le site des Tambours, sur leur shop, et puis également à la Fnac de Nevers. Et pour ceux qui sont déçus d'avoir raté l'interview, tout n'est pas perdu, puisque vous pourrez vous rattraper en écoutant le podcast de l'émission sur bacfm.fr ou sur l'appli BacFM. Et alors que sa statue trône fièrement au centre de la Warzone du Hellfest, tel un dieu du métal veillant sur les festivaliers, Lemmy Kilmister est à l'honneur avec son groupe Motorhead en ce 16 juin, avec la sortie de l'album Live at Montreux Jazz Festival 2007. Ça devait déménager au festival de jazz de Montreux cette année-là. Un disque qui réunit au total 19 morceaux qui retracent à chacun à leur façon l'emblématique carrière de Motorhead débutée 30 ans plus tôt avec l'album On Parole. Et pour fêter ça, j'ai envie de partager avec vous dans la rubrique Sortez Cover la reprise de Enter Sandman de Metallica que Motorhead avait enregistré en 98 à l'occasion d'une compilation pour le CW Wrestling et qui vient de ressortir officiellement le 8 mai dernier sur le 5 titres Enter Sandman EP qui contient deux autres reprises, une des Ramones, une des Sex Pistols. Il y a un titre live de 85 et puis un titre live de ce Montreux Jazz Festival 2007, c'est le titre Rosalie. Et comme j'ai envie de vous faire plaisir aujourd'hui, pour refermer ce Check Me Load, on va enchaîner le titre Enter Sandman, donc qui a été enregistré en studio, et ce Rosalie version live. Mais revenons plus précisément à la reprise de Enter Sandman. Alors, c'est vrai que l'histoire d'amitié entre Motorhead et Metallica, elle est pas nouvelle. Elle a souvent été célébrée sur scène, mais aussi en studio. La reprise de Whiplash par Lemmy et sa bande avait d'ailleurs offert à Motorhead son premier Grammy Award en 2004. Et cette histoire d'amitié, on la redécouvre aujourd'hui à travers cette reprise de Enter Sandman, titre emblématique des Four Horsemen, sorti en version single à l'origine le 29 juillet 1981. 11, quelques jours avant la sortie du Black Album, le 12 août 91, avec son intro à la guitare clean qui va crescendo vers un son de plus en plus lourd avec l'entrée en jeu de la batterie, de la basse et de la guitare saturée, Enter Sandman explore les peurs enfantines qui surgissent souvent au moment du coucher, comme la peur du noir, la peur qu'il y ait un monstre qui se cache sous le lit dans le placard, ou la peur de mourir durant son sommeil, le Sandman faisant référence au marchand de sable. La chanson, elle a connu un énorme succès dès sa sortie et elle a été certifiée disque de platine aux États-Unis, ce qui a contribué à la vente de plus de 30 millions d'exemplaires du Black Album et ce qui a propulsé avec la ballade Nothing Else Matters la popularité de Metallica dans le monde entier. Elle figure depuis parmi les chansons les plus jouée en live de Metallica. La voici revue et corrigée en version studio par Motorhead, juste avant donc d'écouter Rosalie en extrait du live at Montreux Jazz Festival 2007 qui sort aujourd'hui. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau Check Me Load. Et en attendant, stay metal, stay rock'n'roll. Salut à tous!
Thin Lizzy.